Vincent Stecline.
Trois juges d'instruction français ont ordonné ce mercredi un procès pour financement du terrorisme contre le groupe Lafarge et 8 personnes, dont d'anciens responsables. Ils sont accusés d'avoir poursuivi les activités du cimentier en Syrie jusqu'en 2014. Le groupe Lafarge est désormais filiale du groupe suisse Holcim et les 8 prévenus, des membres de la chaîne opérationnelle ou de la chaîne de sûreté des intermédiaires syriens, ainsi que le directeur général de Lafarge d'alors, seront jugés pour financement d'entreprises terroristes et pour certains, non-respect de sanctions financières internationales. Israël assure ce soir que les casques bleus ne sont pas une cible après que l'ONU a affirmé qu'un char israélien avait ouvert le feu sur une tour de guet des soldats de la paix dans le sud du Liban. L'ONU qui dénonce des tirs directs et visiblement délibérés. Les forces israéliennes mènent des opérations contre l'organisation terroriste du Hezbollah dans le sud du Liban, indique l'armée israélienne dans un communiqué. Les infrastructures et les forces de la force intérimaire des Nations Unies au Liban ne sont pas une cible et chaque accident contraire aux règles sera examiné en détail, ajoute le texte, ajoutant que l'incident en question est en cours d'examen. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé ce soir en Égypte. Une visite inédite depuis 2013 pour un chef de la diplomatie iranienne. Ce déplacement intervient au moment où l'Iran multiplie les consultations diplomatiques pour tenter d'apaiser les tensions régionales après des frappes contre Israël le 1er octobre et les craintes de représailles. En Italie, la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, a réussi le tour de force de faire contribuer les banques et les assurances à hauteur de 3,5 milliards d'euros à un budget axé sur des baisses d'impôts pour les ménages, et cela sans provoquer de tempête boursière. Le tueur présumé de Philippines s'oppose à son extradition en France, c'est une information RTS. Le Marocain de 22 ans est soupçonné du meurtre d'une jeune étudiante à Paris mi-septembre. L'accusé était déjà sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français après une condamnation pour viol. Il a été arrêté à Genève mais refuse de rejoindre la France pour y être entendu. Il l'a indiqué ce mercredi à la justice genevoise lors d'une audience devant le ministère public. L'Office fédéral de la justice devra maintenant statuer. En tennis, Dominic Stricker a signé une performance de choix en battant l'ex numéro 6 mondial Matteo Berrettini en 8e de finale à Stockholm. Stan Wawrinka a quant à lui dominé l'américain Brandon Nakashima en 2-7. Le vaudois de 39 ans affrontera Alejandro Davidovic Fokina en 8e de finale. Wawrinka n'est plus parvenu à signer 2 succès consécutifs sur l'ATP Tour depuis l'US Open de 2023. La journée de jeudi s'annonce assez ensoleillée avec des bancs de brouillard le matin sur le plateau. Des précipitations à partir de l'ouest sont possibles en soirée. 14 degrés en pleine cette nuit, 18 l'après-midi jusqu'à 23 en Valais. Un ciel change en vendredi avec une alternance de précipitations et quelques éclaircies.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
La première pour accompagner votre nuit.
Il y a toujours des moments difficiles, des blessures qu'on peut considérer comme un échec ou non, une course qu'on rate, des objectifs qu'on rate, des sélections qu'on rate. On peut rater beaucoup de choses, on peut perdre beaucoup de choses, mais on a aussi toujours la chance de revenir, de devenir meilleur, d'atteindre un objectif, de réaliser un rêve. Et ça, c'est tout simplement magique.
Vacarme.
Sport, l'art de la défaite.
Raphaël Bouchet et Laurence Di Félix.
La voix que l'on vient d'entendre est celle d'une athlète suisse archi-médaillée cette année. 2 fois vice-championne paralympique au JO de Paris, championne du monde de contre-la-montre et vice-championne du monde sur route. Mais avant de remonter sur les podiums, les étoiles plein les yeux et le sourire aux lèvres, Céline Van Til a connu l'accident, le chagrin, l'incertitude. Comment admettre, comment accepter que l'on n'est plus dans la course, que l'on doit renoncer à une carrière ? Parfois, la cause de l'échec est évidente, un accident, une fracture, un choc. Parfois, c'est plus délicat, on n'y croit plus, on ne sait plus où trouver la motivation. C'est le psychisme, le moral qui nous met sur la touche. La navigatrice vaudoise Anne-Sophie Thilot a participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Elle avait 20 ans et sa carrière s'est arrêtée brusquement juste après. Aujourd'hui, elle est conseillère en communication pour plusieurs athlètes et elle les accompagne dans leur carrière et la gestion de leurs émotions. Aux Jeux Olympiques de Paris, elle était l'attachée de presse de l'équipe des réfugiés. Nous la rencontrons au mois d'août, au bord du lac Léman, à Puy. Elle appelle ce jour-là Eyerou Gebrou, cycliste éthiopienne établie à Évian, qui concourait aux Jeux Olympiques dans l'équipe des réfugiés. La traversée du désert, reportage Raphaël Bouchet, réalisation Mathieu Ramsauer.
Eyerou ? Coucou, ça va ?
Ça va et toi ?
Oui, je voulais avoir de tes nouvelles par rapport à ta santé et ton retour à Évian, ça va ?
Oui, ça va, tout est bien. J'ai rendez-vous pour le 21 pour MRI.
IRM, ouais.
Oui, IRM.
Ok. Ok. Ah, oui. Bah, c'est bien, c'est plus vite que ce qu'on pensait. Et puis ton moral, est-ce que ça va un petit peu mieux?
Oui, ça va, maintenant ça va.
Puis t'as un petit peu, une petite pause ou ça repart vite?
Non, maintenant j'ai commencé à m'entraîner parce que j'ai une course en septembre.
Ok.
Par étapes et championnat du monde.
À Zurich, c'est ça?
Oui.
Super. Et là, on parlait de toi parce que je suis avec une journaliste de la radio suisse.
Oui.
Et puis, on parlait de Paris et puis de toi. Et puis, elle est à côté de moi. Elle me demande si elle pouvait te poser une question. T'es d'accord?
Mais moi, je suis très déçue de ma compétition.
Ah, oui, t'en fais pas.
Je n'ai envie pas parler.
Bon. Ah. Ouais, mais alors, il n'y a pas de souci, Eyerou, t'en fais pas. Prends soin de toi et puis on se reparle. J'essaierai de prendre tes nouvelles quand tu aurais le 21, ok ?
Merci.
Ciao, ciao.
Ok, ciao. Ok, merci. Ciao.
Elle a dit je suis très déçue de ma compétition, c'est pour ça que j'ai pas envie de répondre. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ?
Ouais, elle a commencé une super course et en fait, ce qui est dur dans ces courses en ligne aux Jeux Olympiques, c'est que vous êtes pas avec votre équipe, donc il y a des pays qui ont deux ou trois coureuses dans le même peloton, donc elles peuvent travailler ensemble dans le peloton, et puis il y a des pays qui sont plus petits et où elles sont toutes seules, donc c'est difficile. Et en fait, elle a fait un très bon début de course. Le plan était décidé avec l'entraîneur qu'elle travaille avec, si elle voyait une équipe un petit peu travailler dans le peloton, qu'elle puisse se greffer à ces coureuses-là. Et puis, ce qu'elle a fait, mais avec une petite erreur de placement par rapport au vent, ce qui lui a fait perdre un peu d'énergie. Et après, il y a eu, dans la course en ligne de Paris, ils ont passé par des sections étroites et avec des pavés. Et en fait, juste là, ça l'a fait qu'elle a un peu décroché. Et en fait, il y a une règle qu'au bout de certains temps qu'il y a de différence entre la leader et l'athlète, et ben, ils arrêtent les athlètes au fur et à mesure. Et malheureusement, ça a été la dernière athlète arrêtée pour quelques minutes finalement de course, et elle est très déçue de ça parce qu'elle avait vraiment à cœur de finir la course.
Et dans quel état vous l'avez récupérée à la fin de la course ?
Très très touchée, très touchée. Elle voyait ça vraiment comme une injustice et puis un échec. Et je pouvais que la comprendre parce que quand on a ce goût d'inachevé, c'est quand même vraiment difficile à digérer et il faudra du temps pour ça. Et c'est inévitable, donc j'ai pas essayé de lui dire t'en fais pas, c'est super. J'ai essayé de lui dire que nous on avait une immense fierté pour elle, pour son parcours, qu'elle a pas juste fait du cyclisme, elle a dû aussi survivre, et puis qu'avec le temps elle comprendra qu'elle pourra construire là-dessus en fait.
Est-ce que chacun de ces échecs que vous accompagnez vous renvoie au vôtre?
Forcément un petit peu, hein, parce que moi, quand je travaille avec ces athlètes-là, je n'utilise pas seulement mes diplômes universitaires en communication, mais j'utilise avant tout mon expérience en tant qu'athlète, en me disant mais qu'est-ce que j'aurais ressenti à leur place et qu'est-ce que j'aurais voulu entendre à ce moment-là, et comment est-ce que je peux amener un tout petit peu de réconfort à ces gens dans ce moment qui est émotionnellement très dur, en fait. C'est vraiment... c'est quand même des blessures émotionnelles. Je pense qu'on sous-estime parfois, les gens ressortent d'une carrière sportive ou d'une compétition avec une blessure, je sais pas, une épaule luxée, un genou cassé, un poignet, des éraflures. Et puis il ne faut pas oublier que parfois il y a des blessures émotionnelles qu'il faut aussi penser et auxquelles il faut laisser du temps.
Je suis chaque fois époustouflée par la beauté des rives du lac en fait.
Moi c'est tout un... je sais pas, des bruits, des odeurs, toutes des choses qui me rappellent mon enfance quoi. J'arrive ici, je suis dans mon élément. C'est un peu une deuxième maison.
Quoi comme bruit ou comme odeur par exemple?
Voilà le bruit du clapotis, de l'eau, le bruit des voiles qui claquent, l'odeur du néoprène pas bien séché dans le hangar. C'est vraiment des souvenirs. On pourra se mettre sur le banc là à l'ombre.
Est-ce que vous êtes d'accord de m'en dire un peu plus alors sur vos blessures émotionnelles?
Oui. Moi, j'ai eu un privilège énorme, c'est d'avoir vécu une carrière sportive très très jeune, d'avoir participé aux Jeux Olympiques à 20 ans, alors que la plupart des navigatrices ont plutôt 25-30 ans, je dirais, voire plus. Et puis, en fait, ma plus grande blessure, c'est que je pensais qu'au moment où tout allait commencer, ben tout s'est arrêté. Et c'est vrai que ça a été une immense frustration et beaucoup de colère et un peu d'injustice que j'ai ressenti à ce moment-là. En me disant, mais en fait, j'ai tout pour bien faire et on ne me laisse pas le montrer. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, en parallèle de ça, j'ai eu une de mes meilleures amies qui faisait du snowboard cross et qui visait les Jeux Olympiques de Vancouver et qui s'est cassé le genou. Du jour au lendemain, sa carrière s'est arrêtée et j'avais toujours l'impression que chacune en avait vécu une blessure, en fait, à notre niveau, qui avait mis terme à notre carrière. Et ça, c'était assez difficile à digérer. Il a fallu du temps, il a fallu beaucoup de soutien, il a fallu beaucoup d'accompagnement et de travail.
Mais est-ce qu'il y a eu un instant T où vous avez vu que tout basculait pour vous? Est-ce qu'il y a eu une défaite, une course en particulier?
Il y a déjà l'échec, enfin le mauvais résultat, en tout cas des Jeux Olympiques. Où en fait...
En 2008.
En Jeux Olympiques en 2008, où il y a une performance qui est tout à fait correcte tout au long de la semaine, et puis un mauvais départ qui nous disqualifie sur une manche, et là c'est un peu la cata émotionnellement, on décroche et on dégringole dans la tête et dans le classement. Et puis après c'est en rentrant la séparation et le divorce entre guillemets de mon équipage, et là je suis très consciente que ça va être très difficile de retrouver une coéquipière, de repartir et de retourner au plus haut niveau. Ça a été quand même d'une grande violence, pour les deux, émotionnellement. Et on a dû digérer à notre façon. Et puis, on était arrivé à un stade où il n'y avait plus de confiance et de communication. Donc, il n'y avait pas vraiment d'autre issue, comme dans un couple, finalement, que de se séparer.
Est-ce que vous avez eu l'impression que cet échec devenait une forme d'obsession? Que vous vous refaisiez le film tout le temps?
Complètement. Depuis le début, puis j'ai essayé de m'accrocher, et puis j'ai tenu, je pense, un an et demi, deux ans presque, et à un moment donné, j'ai plus pu, et puis j'ai dégringolé. Et j'avais une sorte de côté où je j'arrivais pas à passer à autre chose, j'arrivais pas à digérer, et puis de l'autre, une immense culpabilité, parce que je me disais, mais pourquoi je me mets dans cet état-là, puisque je suis en bonne santé? Ma famille va bien, j'ai une bonne situation, je suis soutenue, j'ai tout pour être heureuse, mais en fait je suis très malheureuse. Et c'était lié à mon échec sportif, en tout cas que je le vivais comme tel. Et c'est vrai que j'ai eu une longue traversée du désert et même un moment où j'ai dû être... j'ai toujours été soutenue par psychologue du sport, mais aussi aidée médicalement lors d'une dépression et donc un médicament qui m'a aidée pendant 10 mois à refaire surface. C'est pas facile, c'est un travail de tous les instants, mais mes plus beaux succès, c'est quand j'ai réussi à plus avoir peur de l'échec. Mais c'est difficile parce que j'avais toujours l'impression que le succès me permettait d'être aimée, que si j'échouais, on n'allait plus m'aimer. J'ai toujours dit que le plus gros concurrent qu'on avait sur une ligne de départ, en fait, c'est nous-mêmes.
Mon handicap est invisible. Il est dû à un très grave accident d'équitation en 2008. Quand je suis tombée avec le cheval, il m'est tombé dessus. En mode coma, trauma crânien, j'étais cérébro-lésée. Donc partiellement tétraplégique et malvoyante, aphasique. Je parlais plus, je marchais plus. J'ai dû vraiment faire un long chemin pour tout réapprendre, récupérer mes facultés mentales.
Ça fait un peu des bruits de cloche de vache.
Bienvenue en Suisse. Bienvenue chez moi.
Je peux toucher. Ça, c'est une médaille d'argent.
Ça, c'est la médaille d'argent de la course en ligne au championnat du monde. C'est vrai que ça a été la seule course depuis le début de l'année passée que j'ai pas gagnée. Mais bon, il y a pire que faire vice-champion du monde.
J'ai pas fait exprès de choisir celle qui était en argent. En fait, c'est vrai que toutes les autres sont en or.
Oui, toutes sont en or. Et au milieu, on voit celle avec le drapeau suisse pour le championnat suisse. Elles ont presque toutes la même couleur, des rubans de différentes couleurs, et surtout deux avec le ruban arc-en-ciel des championnats du monde. C'est ma plus grande fierté.
Ah oui, alors laquelle vous rend particulièrement fière, c'est celle-là?
Je dirais les deux, la médaille d'or et d'argent des championnats du monde de l'année dernière à Glasgow. Fin août surtout, que c'était pas évident. C'était mes premiers championnats du monde en cycliste, puisqu'en 2022 j'avais été sélectionnée bien sûr, mais lors d'une compétition juste avant. C'est vrai que j'ai mal géré mon effort, j'ai roulé beaucoup trop vite à force de volonté et de détermination. J'ai beaucoup appuyé trop fort sur les pédales trop longtemps, donc c'est vrai que ça s'est terminé par un gros coup de chaleur, 5 heures dans les pommes, dans le coma, et puis bien entendu à l'hôpital, et puis après ça m'a coûté quand même plusieurs semaines, 3 mois en fait, pour revenir au sport, être compétitive à nouveau. Donc c'est vrai que la fin de la saison 2022, c'était assez compliqué, puisqu'après ce coup de chaleur, une déshydratation totale, j'ai eu mal aux jambes, aux bras, j'ai eu mal au corps, partout. Mais j'ai toujours vu le verre à moitié plein, une possibilité de devenir en fait encore plus forte. Il y a toujours des moments difficiles, des blessures qu'on peut considérer comme un échec ou non, une course qu'on rate, des objectifs qu'on rate, des sélections qu'on rate. On peut rater beaucoup de choses, on peut perdre beaucoup de choses, mais on a aussi toujours la chance de revenir, de devenir meilleur, d'atteindre un objectif, de réaliser un rêve. Et ça, c'est tout ça. Simplement magique. Ma vie est dédiée à 300% autour du sport, au sport. Donc vraiment, je dors pour gagner, je mange pour gagner, je m'entraîne pour gagner, je récupère pour gagner. Tout est fait de cette manière-là. Et pour en arriver à là, à dire ça, je peux vous dire qu'il y a eu un grand, grand chemin. J'ai passé par une période de dépression post-traumatique qui était extrêmement pénible et douloureuse, notamment à travers de 3 tentatives également de l'anorexie. Donc c'est vrai que j'étais loin, il a fallu rebondir.
J'ai commencé comme ça.
Parce que là, il y a une école de voile.
Avec les stages d'été. Donc, en faisant les matins ici à Puy, puis ensuite, j'ai enchaîné sur le semestre d'automne. Et puis, voilà, je ne me suis pas arrêtée. Quand mes parents étaient d'accord que je fasse la première régate, je crois qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient être sponsors, taxi et psychologue principal pendant de nombreuses années. Mais ouais. Ouais, ça je pense que c'est un optimiste de ma génération. C'est rigolo de les voir. Donc ils étaient encore en fibre, maintenant les bateaux d'école de voile, souvent ils sont en plastique, ils résistent un peu plus au temps et aux enfants qui tirent les bateaux sur le glacis, etc. Mais là c'était encore en fibre et il y avait des bateaux qu'on pensait être plus rapides que d'autres. Moi je me souviens, j'avais un rouge, c'était numéro 8. Je sais pas si c'est celui-ci d'ailleurs. Ah non, ça c'est très... Moi je sais pas, les numéros ont changé. C'est drôle. Et là, je vous présente un autre champion.
Ah.
Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Enchanté.
Raphaël.
Tony.
Vous êtes donc le mari d'Anne-Sophie.
Oui, exactement, oui.
Quand on s'est contacté pour l'émission, on a un peu évoqué ce thème de l'échec, de la performance et de comment on le vivait. Et moi, je suis très admirative de Tony parce qu'il a fait 3 Jeux Olympiques, 2 diplômes olympiques. une quatrième place, une sixième place, où à chaque fois, c'est passé vraiment pas loin de la médaille. Et j'ai toujours vu vivre ce qui pourrait sembler être un immense échec comme quelque chose de... Ouais, avec une philosophie de vie qui m'a appris beaucoup, en fait.
Au fur et à mesure, j'ai réalisé que le sport n'était pas quelque chose qui allait définir qui je suis comme personne. Le sport, c'est un jeu. C'est rien d'autre que ça, en fait. Du coup, oui, ça a fait mal de passer vraiment à un millimètre de la médaille, mais on n'est pas des machines, on ne peut pas être parfait. La seule chose qu'on peut faire, en fait, c'est travailler à chaque fois, faire le maximum pour s'approcher de la perfection. Et c'est ce que j'ai fait, et du coup, j'ai aucun regret, finalement.
Je me permets de vous interrompre, je vais juste vous montrer. Donc, vous vous appelez Tony Willem, c'est ça? Comment ça s'écrit? V-I-L. Ah, ben voilà, on vous trouve tout de suite, là. Vous êtes allemand, véliplanchiste allemand, je vous trouve sur Wikipédia. Et là, si je lis... Alors, Tony Willem se classe 30e de l'épreuve de planche à voile aux Jeux Olympiques d'été en 2004 à Athènes. Lors des Jeux Olympiques de 2012, il est classé 3e après les 10 premières courses et est devancé par le Polonais Przemysław Miarzyński lors de la course à la médaille, échouant donc à la 4e place. Et j'ai trouvé cette formulation... Donc, échouant à la 4e place, assez cruel.
Oui. J'étais le 4e au monde et on parle d'un échec. Et c'est pas juste, en fait. C'est ça qui est si dur. Et même au quotidien, l'autre jour, j'étais au Jeux de Paris avec des connaissances, avec des amis. On parlait d'une mauvaise performance d'une personne qui est devenue, je pense, c'était 5e. Ça m'a vraiment énervé profondément parce que on calcule tout par les médailles. Et pour moi, c'est incompréhensible, en fait, de mettre que les médailles en valeur. Pourquoi on ne parle pas du travail qui était mis dedans? Parce que même une 10e place, une 15e place, pour certaines personnes, peut être une super performance. Parce qu'ils se sont dépassés, parce qu'ils ont atteint quelque chose qui n'a jamais été atteint par cette personne.
Est-ce que vous arrivez quand même à vous souvenir des émotions qui se sont emparées de vous au moment où vous apprenez qu'en fait, vous n'êtes plus troisième, mais quatrième?
Ah oui, c'était très très dur. J'ai pleuré, j'ai passé par tous les états des émotions, en fait. Et ça m'a pris vraiment aussi quelques semaines à digérer. Et même encore aujourd'hui, des fois, quand je vois les performances aux Jeux Olympiques, je revis un peu ce que j'ai vécu à l'époque. Bah, j'ai la boule au ventre. Parce que c'était vraiment un rien, même si... Ça devient peut-être un peu complexe parce que, en fait, notre dernière course des Jeux Olympiques compte double. Si elle comptait pas double, j'avais une meilleure performance que le troisième. Sachant ça, ça rend la chose des fois encore plus difficile parce qu'on sait, on était en fait mieux que le troisième, mais on est quand même quatrième. Et oui, ça restera toujours pas facile. Mais c'était quand même cool et j'ai passé le meilleur temps de ma vie avec cette carrière sportive, aux Jeux Olympiques, aux autres championnats. C'est pas une carrière fait, n'est pas seulement fait par les Jeux Olympiques. Il y a tout qui va dedans. C'est un processus et c'est ça qui est magnifique, en fait.
Le faire du sport du haut niveau et d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques, c'est un vrai privilège. Et on doit... Moi, je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre cette expérience-là. Sur le moment, ça a été parfois un petit peu difficile parce qu'aussi, tout notre entourage, on a beaucoup d'amis. Nous, peut-être, je sais pas, 60-80% de nos amis sont allés aux Jeux Olympiques. Parmi eux, il y a X médaillés olympiques. Donc nous, on se trouve un peu naze à côté. Mais dans la vraie vie de tous les jours, c'est vrai que... En fait, c'est un vrai privilège et qu'il y a un mini pourcentage de la population qui va tous les 4 ans aux Jeux Olympiques.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Céline Vantil?
Alors, je suis arrivée à l'hôtel de ville avant ma séance de commission du Grand Conseil. En vélo, cette fois-ci en vélo électrique, parce que c'est mon seul moyen de déplacement. Après, c'est vrai... que mes jambes avancent plus vite que le vélo électrique. Donc voilà, en vélo électrique, je vais pas mal quand même plus lentement qu'avec mon vélo de course, malgré le handicap.
Vous êtes plus forte que votre vélo, en fait.
Ouais, c'est un petit peu ça, mais sur mon vélo électrique, j'essaye de pousser pour pouvoir aller plus vite, d'appuyer plus fort sur les pédales, mais ça marche pas.
Je peux mettre toute la force que j'aimerais, mais il n'ira pas plus vite.
De quoi vous parlez aujourd'hui en commission?
Aujourd'hui, ce sera la commission des droits politiques et règlements du Grand Conseil.
Ok. Vous avez une carte de parti sur vous?
Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est celle-ci.
Ah, voilà, on voit votre photo. Vantil Céline, députée PLR, Grand Conseil. Pour vous, l'ambition, la réussite, le mérite, ça a une couleur politique, c'est des valeurs de droite?
La réussite, le succès ou encore tout simplement être heureux, c'est un droit de tout le monde dans la société qui est totalement apolitique. Et pour moi aujourd'hui, la liberté individuelle pour moi est synonyme de bonheur. La responsabilité individuelle est très très importante mais très chère également. Donc je souhaite vraiment déterminer mes actions dans ce sens-là et surtout la question de l'autonomie.
Est-ce que ça vous arrive de vous replonger dans ces périodes noires et sombres que vous avez traversées, qui vous ont aussi construites? Est-ce que ça vous rattrape parfois? Est-ce que vous avez encore quelques bribes qui vous reviennent de temps en temps?
Non, jamais. À l'exception de quelques jours en arrière, lorsque j'ai retrouvé un album en faisant du rangement qui retraçait des images juste après l'accident. Et là, j'ai pu revoir des images vraiment très très fortes avec le crâne rasé durant le mois de coma que j'ai expérimenté, intubé. C'est des images extrêmement fortes et c'est là où ça me fait quand même réfléchir et où je me dis, moi, en fait, je viens quand même de là. Je me rends compte que oui, c'est quand même assez exceptionnel là où je suis aujourd'hui, jusqu'à là où j'ai pu arriver aujourd'hui, grâce à beaucoup de choses, à un encadrement solide, à beaucoup de personnes autour de moi, surtout, qui m'ont aidée, et puis mon engagement dans la vie de tous les jours, en fait. C'est en quelque sorte vouloir redonner aux autres ce qu'ils m'ont apporté, mais pas seulement, ça va bien au-delà.
Vous avez frôlé la mort quand même. Est-ce que, du coup, pour vous, vaincre aujourd'hui, c'est presque gagner contre la mort?
Pas carme.
C'est surtout vivre. Pleinement, chaque instant, sans remords ni regrets.
Céline Vantil, élue au Grand Conseil de Genève, pour conclure ce reportage de Raphaël Bouchet, intitulé « La traversée du désert ». Qu'avez-vous pensé de ces propos sur la gagne, la victoire comme but dans la vie? Dites-le nous au 058 134 134 0. Avez-vous été confronté à l'échec? Rêviez-vous d'une carrière sportive qui n'a pas pu exister? Comment avez-vous fait pour faire le deuil de ce rêve? Nous aimerions beaucoup recueillir vos témoignages au 058 134 134 0.
Vacarme, Raphaël Bouchet, Laurence Di Félix, Valérie Dantan et Stéphanie Coudray.
Les athlètes confient souvent leur destin à des forces supérieures. On les voit faire le signe de croix sur la ligne du départ ou s'agenouiller quand ils marquent un but. Demain, nous partirons au Bénin pour rencontrer des prêtres vaudous consultés par les clubs sportifs.
Mettre devant que c'est les croyances qui font gagner, on aurait été les champions du monde depuis des années. On ne l'a jamais été dans aucune discipline. Et pour moi, jusqu'à aujourd'hui, rien ne m'a encore démontré l'importance des croyances dans l'acquisition des résultats, mais non plus dans les échecs.
Prières, offrandes et rituels, un reportage à découvrir demain dans Vacarme. Monuments, lieux mythiques, personnages célèbres, Monumental vous emmène à la découverte de leur fascinante histoire. De New York à l'île de Pâques.
C'est une île, vous savez, où il y a les statues les plus grandes du monde, des statues géantes.
De Nefertiti à Gustave Eiffel, en passant par le musée du Louvre ou le mur de Berlin.
À 150 km derrière le rideau de fer, voici Berlin.
Joanne Ducey vous raconte leurs histoires dans Monumental, tous les dimanches dès 13h sur la première. À retrouver sur rts.ch et sur l'application Play RTS.
Tribu, Julien Magnolet.
Mettre le manteau sur les épaules de sa compagne, régler l'addition au restaurant ou tenir la porte à sa collègue, la galanterie à ses codes, qui ne passe, il faut dire, plus très bien aujourd'hui. Cette forme de courtoisie envers les femmes est souvent vue comme du paternalisme, voire du sexisme. Or, la galanterie à l'origine a été un bouleversement, une révolution des mœurs qui a plutôt libéré les femmes. C'est en tout cas à votre propos. Jennifer Tamas, bonjour.
Bonjour.
Jennifer Tamas, vous enseignez la littérature française aux États-Unis du côté de la Rutgers University, c'est dans le New Jersey, côte Est, et vous signez ce petit livre « Peut-on encore être galant ?». Vous êtes de passage à Paris, dans les bureaux du Seuil, on profite pour vous interviewer. Alors, Jennifer Tamas, est-ce que vous êtes une adepte du baise-main ?
Non, pas du tout. Et juste pour revenir sur votre entrée en matière, je voudrais juste signaler que voilà, poser le manteau, soulever les bagages, etc., c'est des normes de politesse qui n'ont pas besoin d'être genrées. On peut le faire pour aider une femme avec une poussette, etc. Et pour moi, ça ne relève pas de la galanterie.
On verra qu'il y a effectivement une sorte d'évolution pour plein de gens. C'est ça la galanterie, mais pour vous, ça n'est pas ça. Alors, ça date de quand, la galanterie, telle que vous la voyez, vous ?
Alors, ce que j'essaye d'expliquer dans le petit libelle, c'est que la galanterie se met progressivement en place en France, dans la société du XVIIe siècle, par réaction à la violence dans les guerres de religion, dans la société française, mais aussi la violence telle qu'elle est représentée dans la littérature, sur la scène, où on montre des crimes, des viols, des meurtres, etc. Et que progressivement, il y a une sorte de civilisation des mœurs, qui va s'opérer pour plusieurs façons différentes, dans la littérature, la peinture, la musique, et que les femmes eurent une grande part dans cette révolution des mœurs.
Pourquoi elles eurent une grande part ? C'est elles qui ont lancé ce mouvement-là ?
Alors, c'est une co-construction, c'est ça que j'essaie d'expliquer, et souvent, on réduit la galanterie à un prisme masculin, c'est-à-dire qu'on va voir dans cet art de vivre, par exemple, l'influence de Louis XIV, qui invita à la cour tous les grands seigneurs féodaux pour les curialiser, hein, c'est-à-dire les mettre au service du roi, les divertissements, etc., pour les changer de la violence habituelle. Donc, il y a toute cette civilité-là caractérisa ce nouveau mode de vie. Mais ce que je montre, c'est aussi un phénomène littéraire, donc pensé par les hommes et les femmes, et notamment les femmes, pour penser autrement les rapports humains. Et notamment dire aux hommes que toute cette violence, ce rapport au duel, le fait de montrer leur virilité, leur art du combat, etc., ce n'était peut-être pas ce qui était le plus efficace pour faire des liens humains.
Pour faire des liens humains, donc ça veut dire que les femmes ont une place importante, mais ça considérait les deux sexes. Enfin, ça allait dans les deux sens, c'était une sorte de pacification des mœurs qui concernait autant les hommes que les femmes, c'est juste ?
Oui, et c'est une révolution culturelle parce qu'en fait, il faut bien penser que dans la société d'Ancien Régime, vous avez évidemment les trois ordres, donc la noblesse, le clergé et le tiers-état. Et finalement, les nobles et les hommes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont là pour se battre, ils sont là pour défendre la France, pour utiliser des armes, pour faire preuve de prouesses guerrières. Donc dès que quelque chose ne leur plaît pas, c'est l'art du duel, etc. Et tout à coup, en fait, les femmes disent « mais en fait, on peut communiquer autrement, on peut prouver sa valeur autrement ». Et donc ça va troubler quelque chose dans le genre, ça va provoquer une forme de malaise, puisque si la valeur d'un homme, c'est plus sa puissance physique, qu'est-ce que ça peut être ?
C'est intéressant le terme que vous utilisez peut-être à dessein, le fait que vous dites le trouble dans le genre, c'est du Judith Butler. Est-ce oui. qu'il y a quelque chose de très contemporain pour vous dans la galanterie de l'époque, dans le sens que tout d'un coup les hommes n'ont pas besoin d'être forcément très très virils, ils peuvent être différents, ils peuvent se montrer plus faibles, c'est ça qui se passe à ce moment-là notamment ?
En fait, ça se fait progressivement, c'est-à-dire que la première réaction des hommes, ça va être de résister à ça. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez des femmes comme Scudéry ou Villedieu ou encore plein d'autres femmes qui vont penser différemment les sentiments, penser à l'expression aussi des rapports humains et aussi à la mixité, parce qu'il faut qu'on parle de l'influence des salons, c'est-à-dire que on va vouloir mélanger les hommes et les femmes, et les femmes vont s'inviter à la discussion des rapports amoureux. Et ben, si vous voulez, cette mini révolution, elle est pas évidente dans le sens où, par exemple, aujourd'hui, encore aujourd'hui, si vous voulez, on va retenir de ce mouvement culturel les blagues ou les moqueries de Molière qui va caricaturer ce mouvement de femmes précieuses, femmes ridicules, les précieuses ridicules. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on ouvre à nouveau ce chapitre de la galanterie pour comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe progressivement, ces rapports humains? Qu'est-ce qui se dit? Comment on se parle? Comment on va vivre ensemble? Et qu'est-ce qui va se passer?
Et pour les femmes, parce que là, c'est intéressant, parce qu'on a ce regard du 21e siècle avançant, de la galanterie qui était très marquée aussi par MeToo, de cet effet de domination dans le fond de l'homme qui fait semblant d'être gentil avec la femme. C'est ce que disent certaines personnes, la galanterie, mais au fait, dans le but de la dominer, là, c'est plutôt un mouvement d'émancipation de la femme, si je vous comprends bien, cette galanterie, Jennifer Tamas.
Alors, le mot émancipation, du coup, au 17e siècle, n'existe pas, mais l'idée... on va prendre des exemples très concrets pour bien voir de quoi il s'agit. Donc, vous avez plusieurs femmes. Donc, je pense évidemment à Scudéry, mais il y en a beaucoup d'autres.
Madeleine de Scudéry.
Voilà, Madeleine de Scudéry, pardon, qui, en fait, écrit textuellement « Le mariage est un esclavage ». Et par exemple, quand on va lire ses lettres, elle va dire « Bah, écoutez, moi, j'ai beaucoup de mal à envoyer mes compliments auprès des femmes qui se marient », parce qu'on faisait, on envoyait des compliments. Parce que j'arrive pas à me réjouir qu'une femme se marie, puisque je vois déjà ce que ça signifie. Vous avez d'autres femmes dans la suite, hein, comme Gabrielle Suchon, par exemple, qui vont dire « Bah, en fait... être mère de famille, c'est aussi subir des violences conjugales. On est au XVIIe siècle. C'est pas ce que je souhaite. Et je souhaite, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est écrire dans une chambre à moi. Enfin, c'est avant Virginia Woolf. Donc, si vous voulez, on va retrouver des revendications qui paraissent actuelles, c'est-à-dire ne pas se marier, refuser le sexe aussi. Vous avez plusieurs femmes qui vont se positionner en disant, mais c'est ça. Le nerf de la guerre, c'est en fait on peut cultiver d'autres rapports, on peut avoir d'autres sources de plaisir. Donc refuser le sexe, refuser la maternité, refuser le mariage, valoriser des liens amicaux entre les hommes et les femmes à une époque où, vous savez, quand on est une femme, on peut pas se positionner comme ça, écouter les hommes parler d'amour. Quelque part, c'est les encourager, on prescrit le silence aux femmes. Donc vous avez tout à coup des femmes qui veulent changer de société, en fait, et de mode de vie. Donc c'est en ça qu'on voit une sorte... Moi, c'est ça qui m'a intéressée, c'est de créer des parallèles entre les revendications d'aujourd'hui et celles du passé pour voir en quoi il y a une profondeur de champ, en quoi il y a toute une histoire derrière les revendications d'aujourd'hui.
Est-ce que cette galanterie, ça a été, je sais pas, comme l'impressionnisme ou d'autres mouvements, un vrai mouvement revendiqué comme tel? Ou est-ce que c'est une lecture a posteriori qui a traité ce mouvement-là ou ce qui se passe à ce moment-là de galanterie? Est-ce que ces femmes se disaient galantes, par exemple?
Alors, c'est très intéressant comme question parce que c'est aussi source de malentendus. Parce que très vite, en fait, la femme galante, ça devient le synonyme de la courtisane ou de la prostituée. Mais parce que, il faut penser à comment ce mot rentre dans le dictionnaire. Et c'est notamment Furtière, qui est un des grands auteurs du dictionnaire, on appelle le dictionnaire de Furtière, mais il a aussi travaillé au dictionnaire de l'Académie française, qui enregistre le sens de femme galante en disant que, voilà, c'est une femme, avoir une galanterie, avoir une aventure, ça devient très vite connoté sexuellement. Mais quand on va lire les femmes, c'est-à-dire quand on veut s'émanciper du sens que les hommes donnent au mot et qu'on va voir dans la littérature féminine des autrices de l'époque, on découvre par exemple chez Madeleine de Scudéry la femme galante qui s'appelle Sappho. Et Sappho, ça fait évidemment référence à la grande poétesse antique qui inventa un nouveau type d'élégie et qui est une grande littéraire, en fait, une grande figure littéraire de l'époque. Et Scudéry va s'approprier cette figure, ça va devenir son surnom, Sappho. Et ben, dans la fiction qu'elle fait de Sappho, dans le Grand Cyrus, par exemple, Sappho est une femme galante. Et elle revendique ce mot en disant que c'est un modèle de perfection féminine. Une perfection d'honnêteté, de force d'esprit, d'enjouement, parce que la galanterie a quelque chose de joyeux aussi. Et donc, elle va revendiquer ce terme, sauf qu'en fait, cette revendication-là, ce personnage-là, vont totalement passer à la trappe dans l'histoire littéraire française.
Nous parlons de la galanterie ce matin avec vous, Jennifer Tamas. On va se demander comment cette galanterie a évolué, on l'a vu, vers une certaine signification aujourd'hui, puis se demander peut-être si cette galanterie est une fille de la France ou est-ce qu'on l'a retrouvée un peu partout. Ça sera juste après Patricia Cass.
And now, ladies and gentlemen, let the show begin. If I tell you the way it was, will you listen in as the girl sang a tune through a smoky room, pushing broom? Il avait tout d'un gentleman, debout près du bar, le magicien à la belle âme, elle veut y croire. Il lui dit qu'elle aura son voyage au-dessus des nuages, elle y croit. Elle se dit qu'elle va la décrocher, la lutter d'en bas pour une fois. Cette fois, on va lever les yeux pour la voir, dans la lumière fondue au noir, la petite chanteuse du piano bar. Voilà, ladies and gentlemen, a Moroccan town, elle rencontre son gentleman. Lady Luck is found, but it hurts in his head full of broken laws. Prends la pause. And now, ladies and gentlemen, so the story goes. Un oiseau seul sur la mer se prend pour un bateau. Elle regarde plus en arrière et dit bye bye à Johnny. It's slow, Johnny Doe. You can see I can breathe. Stop the show. C'est parti, elle met les voiles, quel que soit le vent. On n'a jamais qu'une étoile, faut s'y accrocher tout le temps. You can see. Take it slow, Johnny Doe. You can see I can breathe. Stop the show. And now, ladies and gentlemen, que le show commence sur une histoire de piano bar qui a pas eu de chance. Pas su faire de la fille qui chantait sa vie une étoile. Is he more than a gentleman? And now, ladies and gentlemen,
And now, ladies and gentlemen, c'était Patricia Cass. On retrouve Jennifer Tamas. Nous parlons avec vous de la galanterie. Qu'est-ce qu'elle était véritablement lorsqu'elle est apparue au XVIIe siècle? Alors, je me posais la question tout à l'heure. On a beaucoup parlé, hein, notamment pendant le mouvement MeToo, de l'amour à la française, de ce qui vient des États-Unis n'est pas la même chose de ce qui se passe en France et en Europe. Est-ce que la galanterie, c'est une fille de la France?
Alors, on a beaucoup caricaturé la galanterie comme un art d'importuner, une façon de séduire, où on flirtait de manière un peu ostensible. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que le principe de la galanterie dans son origine, dans sa création, c'est l'idée de déployer envers l'autre un régime d'écart, d'égard, de gentillesse, d'attention, qui sont comme des bulles de savon, qui passent inaperçues, qui ne sont jamais insistantes, qui sont tout le contraire de cet art d'importuner qui a été revendiqué. C'est au contraire un art de valoriser l'autre et de faire sentir à l'autre qu'il est important, qu'il est plaisant, qu'il est agréable et qu'il nous fait passer du bon temps. C'est-à-dire que c'est ça qui est ambigu dans la galanterie, c'est que c'est à la fois un art de vivre, mais aussi un art d'aimer. Un art d'aimer qui est une façon de ne pas insister, de peut-être aussi mettre à distance les passions pour mieux les maîtriser, voire convertir la passion, l'amour qui n'est pas partagé en amitié tendre. Parce que, en fait, derrière la galanterie, il y a aussi toute l'invention de la tendresse qui est au cœur de ce régime d'égard.
C'est intéressant parce que vous parlez de la passion aussi. Si on reste dans la littérature, là on a parlé du XVIIe siècle, mais deux siècles plus tard, il y a le romantisme, où là les passions sont ce qu'il y a de plus puissant, les personnages, les romans se torturent. Donc la galanterie, ce n'est pas de la passion, c'est même l'inverse, c'est juste.
C'est très intéressant parce que justement le romantisme va se constituer contre la galanterie. Parce que les romantiques vont dire, mais la galanterie, finalement, c'est cette extrême politesse qui est du mensonge. Là, on peut retrouver, par exemple, l'Alceste de Molière dans Le Misanthrope qui dit, oh là là, la politesse, mais en fait, vous passez votre vie à mentir, à souhaiter le bonjour à des gens que vous aimez pas, à leur demander comment ils vont alors que vous n'en avez cure, etc. Donc, les romantiques vont, au contraire, exalter le moi, la vérité du moi, des sentiments, de la passion, contre la galanterie.
Mais juste la galanterie, on peut aussi dire peut-être que cette grande politesse, notamment des hommes envers les femmes, ça peut aussi être vu comme un maquillage pour arriver à ses fins. Dans le fond, coucher avec la femme à qui on tient la porte du restaurant, même si vous n'aimez pas cet exemple. Mais je veux dire, il y a pas un peu de ça aussi, de maquillage au fait,
mais
de
ça,
brutalité d'ailleurs.
Oui, mais ça, c'est l'instrumentalisation que les hommes font de la galanterie, justement parce qu'ils ne veulent pas comprendre, que c'est autrement que les choses se situent, puisque vous avez des femmes qui vont considérer que la galanterie, c'est un art de converser, de vivre ensemble, de parler de questions d'amour. Et donc vous voyez bien que dès que vous parlez d'amour, ça prête à confusion. Si vous parlez d'amour, ça veut dire que vous acceptez d'en parler, ça veut dire peut-être que vous allez accepter des avances, etc. Or, comme disait Louise Labbé à l'époque, le plus grand plaisir après l'amour, c'est-à-dire après faire l'amour, c'est d'en parler. Mais justement, il y a un écart énorme entre parler d'amour et faire l'amour. Et c'est justement cette distance que vont essayer d'abolir certains hommes qui vont détourner la galanterie vers le libertinage, par exemple.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-on passé de cette galanterie, cette philosophie de la discussion, de la tendresse, à cette vision très différente qu'on a aujourd'hui de la galanterie complètement dépassée? Si on lit, il y a tellement... En préparant cette émission, j'ai lu tellement de chroniques, notamment de femmes, qui disent « mais la galanterie, mais à la poubelle, c'est affreux, j'en peux pas ». Qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense que, en tout cas, c'est ce que j'essaye de montrer dans le petit livre, c'est que j'aime beaucoup le mot que vous avez utilisé, à savoir la philosophie. C'est-à-dire que si on prend la galanterie au sérieux, dans la complexité de cette notion telle qu'elle nous est présentée, non seulement par les œuvres, mais par la vie de ces gens dont on peut lire des traces, par exemple, dans les correspondances, dans les chroniques du samedi, enfin, il y a des documents qui prouvent ça. Si on prend au sérieux cette notion, on voit que c'est une philosophie. Une philosophie au féminin, à laquelle on n'apporte pas la même attention. Alors que, voyez, par exemple, on va estimer l'amour platonique ou Platon ou Aristote, l'éthique à Nicomaque, etc., la façon d'envisager l'amitié, les rapports humains, la maîtrise des passions. En fait, quand c'est les hommes qui en parlent, on parle de néoplatonisme, on parle de pétrarchisme, on parle, etc., on donne du poids et de l'importance à cette philosophie des passions et de la maîtrise des passions. On peut penser aussi au stoïcisme. Mais dès qu'elle est pensée au féminin, c'est-à-dire cette idée qu'en fait, le plaisir qu'on a à converser avec des hommes est beaucoup plus grand que les jeux de l'amour et du hasard. Et donc, si on prend cette philosophie au sérieux, alors on découvre quelque chose d'intéressant, de novateur, de mise à distance, qui résonne encore aujourd'hui. Sauf que c'est une philosophie qui n'a pas été prise au sérieux, qui a été colonisée par un regard masculin, et c'est de ça que nous héritons aujourd'hui. Et c'est contre ça que certaines féministes, et je les rejoins, s'insurgent. C'est-à-dire, non, vous allez nous expliquer que la galanterie, bah, c'est quelqu'un qui vous paye l'addition et qui vous tient la porte. On n'en a pas besoin. Par contre, les plaisirs de la conversation, la volonté d'aller plus loin dans des discussions, même des jeux de séduction qui sont qui ne prêtent pas à conséquences, pourquoi pas? Inventer la fluidité de genre, ce dont on parle aujourd'hui, le polyamour par exemple, il y a d'autres façons de le considérer. Donc en fait, c'est ça que j'essaye de retracer, en fait. Je sais pas si vous me suivez.
Je vous suis. Par contre, une question à laquelle on n'a pas encore répondu, c'est: la galanterie est-elle une fille de la France? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment né en France, à Paris, ou est-ce qu'on a retrouvé des mouvements similaires un peu partout?
Alors ça, j'essaye de retracer un petit peu les variantes en Italie, en Espagne. Et je fais aussi une petite comparaison avec l'art du dating à l'américaine. Mais en réalité, il faut aussi penser que au XVIIe siècle, c'est une époque où les idées circulent, où les mariages se font entre la France et l'Espagne sans arrêt, où les arts circulent. Donc après, la spécificité française, à mon avis, mais j'ai pas toute l'expertise pour en juger dans tout la diversité de la littérature des autres pays, mais il me semblait que la part que les femmes prirent dans la littérature, par exemple le fait que la littérature française au XVIIe siècle, ce sont d'abord des femmes qui publient des romans, qui publient des contes de fées, qui vont mettre au cœur de leur intrigue d'autres sortes de sentiments amoureux, la question du consentement sexuel aussi, et la façon de fluidifier les rapports humains, ça, en tout cas, on en a mille traces dans la littérature française. Peut-être qu'on en a mille traces dans la littérature italienne ou espagnole. Enfin, j'ai parlé, par exemple, de la galanterie d'Anne d'Autriche dans le Petit Libelle. Mais en tout cas, il y a vraiment dans la littérature française une production féminine à ce titre qui est vraiment prodigieuse et qui demande à être redécouverte.
Vous dites aussi, Jennifer Tamas, qu'à l'époque déjà, au XVIIe, certains hommes se sont insurgés en disant qu'on ne pouvait plus rien dire. Parce que les femmes commençaient à dire, à parler, à s'exprimer, et même à écrire, et que du coup, ça, ils se sentaient offensés. Donc cette accusation-là, elle n'est pas nouvelle non plus.
Non, elle n'est pas nouvelle non plus. Vous avez par exemple Boileau qui va s'acharner pendant 40 ans contre Scudéry, qui va se moquer de ses dialogues de romans, qui va écrire des pamphlets. Vous avez vraiment des diatribes qui sont écrites, des querelles littéraires dont on peut suivre la trace, encore une fois, à travers les correspondances. Je parlais de Molière tout à l'heure, mais vous avez aussi d'autres, l'abbé de Pure, par exemple. En fait, on peut en suivre la trace partout. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit très vite comment les femmes et leur littérature vont être instrumentalisées dans la querelle des anciens et des modernes. Et comment les hommes vont instrumentaliser les femmes pour entrer en compétition avec d'autres hommes. Donc par exemple, Boileau et Perrault, ils vont s'opposer en utilisant les femmes, la question du mariage, la question de la préciosité, etc. Donc c'est passionnant comme époque, mais ça demande un tout petit peu de recul et aussi de sortir des anthologies littéraires, sortir de sa zone de confort et de sa zone de connaissance pour aller lire d'autres textes.
Un des autres reproches qui est fait à la galanterie, c'est que c'est un truc d'aristo.
Oui.
On dirait un truc de snob. Quelque chose que, voilà, ça concerne les gens très riches, qui ont des moyens, etc. D'ailleurs, on dit que c'est un peu décalé complètement aujourd'hui, mais ça, c'est un reproche qui est venu assez vite, cette idée que, bah, peut-être après la Révolution française, que c'était un truc d'aristocrate, la galanterie.
Bah, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a oublié un petit peu toutes ces autrices, parce que qui écrivait au XVIIe siècle? Donc, vous avez surtout des aristocrates qui écrivaient, et donc des femmes qui, bien qu'aristocrates, ne choisissaient pas leur mari, subissaient des violences sexuelles, n'avaient pas les mêmes moyens, les mêmes accès à l'instruction que les hommes, et donc qui se sont positionnées contre ces formes d'oppression, sauf que, bon, comme elles étaient aristocrates, on a plus écouter des gens du peuple, finalement, des Molière, des Racine, qui finalement ont réussi à écrire et à se faire connaître et ensuite à se faire anoblir éventuellement, mais en, d'une autre façon. Juste pour vous dire sur ce reproche qui est fait aux aristocrates, les précieuses ridicules de Molière montrent bien que ces idées, bien qu'elles soient énoncées par l'aristocratie, infusent la société, qu'elles circulent, qu'on la retrouve dans les provinces. On parle même de cet air précieux qui a infesté tout Paris et qui se répand comme une épidémie dans toutes les couches de la société. Donc oui, ça part d'en haut, comme le mouvement MeToo. C'est la même accusation qui est faite au mouvement MeToo, qui part d'en haut. Et est-ce que ça touche tous les milieux? Est-ce que ça a les mêmes effets? Pas forcément.
Un grand merci, Jennifer Tamas, de nous avoir parlé de cette galanterie. Vous enseignez donc la littérature française aux États-Unis à Rutgers University, c'est dans le New Jersey. Vous étiez de passage à Paris, où on vous a interviewé dans les bureaux du Seuil, qui est votre éditeur. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Peut-on encore être galant ?» Une bonne suite de journée à vous.
Merci beaucoup.
Julien Magnolet.
Smiles, 'cause he's the child that they've been waiting on. A Friday night, well, you know, that's okay. He gets his head so high, you make him fly away again. A singing rain, I keep tumbling down. I don't think that I find a place I can rest. 'Cause here on this side of town, I don't think that I find within me my best. Late at night, yeah, there comes a girl. Looks like words hit harder than the fist in her world. Come on in. You have the curtains drawn and them all gone. No dreams tonight. A singing rain, I keep tumbling down. I don't think that I'll find a place I can rest. 'Cause here on this side of town, I don't think that I'll find within me my best. Singing rain, oh, when it gets cold again, there'll be a light at the end of this. There'll be a light at the end of this. Till then you keep on singing. Singing rain,
I keep a tumbling down. I don't think that I find a place I can rest. Cause here on this side of town, I don't think that I find within me my best. Singing rain, keep it tumbling in.
Les émissions de la journée en nouvelle diffusion pour accompagner vos nuits. La première, il est 1h.